Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Sur RMC dans l'Intégral Sport. Salut à tous, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h avec l'Intégral Foot de François Pinet pour le Multi Ligue 2. Plein de belles choses au programme, et notamment de la Ligue 1, 17h pour le coup d'envoi de Monaco-Lens, que vous suivrez bien évidemment avec nous. Dans quel état se trouvent les Monégasques après leur échec en tour préliminaire de la Ligue des Champions, et à une semaine de retrouver le PSG au Parc. L'ASM doit convaincre. On sera avec Manu Amoros tout à l'heure. On parlera Première Ligue aussi avec le derby d'Angleterre lundi soir entre Manchester United et Liverpool. United qui s'active sur le marché des transferts, et puis Arsenal qui joue ce soir à 18h30. Ce sera dans l'Intégral Sport, tout comme les équipes de France de volley qui jouent à Montpellier, les filles face à la Turquie, les hommes face au Brésil. Et puis on n'oublie pas la deuxième étape de la Vuelta et les championnats d'Europe de gymnastique à Munich, épreuve par équipe chez les hommes avec l'équipe de France. 16h07 bientôt sur RMC, vous êtes dans l'Intégral Sport. On va faire un premier tour des lives en cours, et notamment la quatrième journée de Ligue 2 entre Saint-Etienne et Le Havre. À Geoffroy Guichard, on va trouver Edouard Jay. C'est le début de la seconde période, Edouard. Et dans quel état se trouvent les Stéphanois? On le rappelle quand même, réduit à 9.
Oui, bonjour Flora, bonjour à tous, rebonjour. 48 minutes de jeu, toujours 0-0. Eh bien, ils sont à 9 contre 11, et du coup Laurent Batless à la mi-temps a fait deux changements, plus un changement tactique. Cédusso a remplacé Louis Mouton, et Ivan Masson a remplacé Gabriel Silva, et on est passé à une défense alors à 3 ou à 5. En tout cas, on a resserré les deux lignes, puisque désormais il n'y a plus que 8 joueurs de champ du côté de Saint-Etienne. On rappelle, après le double carton jaune 36 et 30e pour Anthony Briançon, et le carton rouge direct pour Mathieu Cafaro, c'était à la 36e minute. Et donc à la mi-temps, ce changement tactique avec désormais une défense articulée autour de Nadé, de Palencia et puis de Giraudon, et puis sur les côtés donc notamment Ivan Masson et Cédusso, pour essayer de ramener ce qui peut être ramené à ce moment du match, 0-0. Ben, un point du match nul, ce serait presque un exploit face à 11 Normands. Et d'ailleurs, les Stéphanois qui sont sortis les premiers de la boîte, on va dire, avec deux corners qui ont mis un petit peu en difficulté le gardien Havrais. Mais pour l'instant, on en reste à 0-0. Ça va être difficile pour les Stéphanois d'aller chercher une première victoire en Ligue 2 à 9 contre 11 Havrais. Et il reste presque toute une mi-temps, puisque nous en sommes à la 49e.
Effectivement, on viendra te voir tout à l'heure, Edouard, pour voir comment s'en sortent les Stéphanois. On va aller, tiens, du côté de Munich un petit peu avec les championnats d'Europe de gymnastique. On va retrouver Morgane Maury. Salut Morgane. Bonjour. C'est l'épreuve par équipe homme. Dis-nous, où est-ce qu'on en est exactement, dans quelle rotation, et où en sont surtout nos Français?
C'est la fin du quatrième agré, la quatrième rotation pour les Français. C'était la barre fixe, leur agré faible lors des qualifications. Et bien dans cette finale, ils ont été encore moins bons qu'en qualification. 38-765 pour les Bleus, avec un raté de Léo Saladino. Une note en dessous des 12-500, 12-466. C'est faible. Les Bleus, qui étaient troisième après les barres parallèles, ont bien reculé, Flora. Ils sont maintenant 6e à 2 agrès de la fin. Ils vont maintenant s'élancer sur le sol avec Paul Degouy, Léo Saladino et Benjamin Osberger. Il faudra que ça rate devant pour que les Bleus espèrent monter sur le podium. Ils ont 2,6 de retard sur la Turquie, qui est actuellement 3e. La Grande-Bretagne fait cavalier seul, plus de 170 points devant les Italiens, les Turcs, les Suisses 4e, les Hongrois et les Français 6e. Il reste le sol et le cheval d'Arçon pour essayer de monter sur le podium.
Merci beaucoup Morgane, on te retrouvera tout à l'heure. On va retrouver Edouard Jay avec un but du côté de Geoffroy Guichard.
Ah oui, le corner et les Havrais qui ouvrent le score. Nous en sommes à la 50e minute avec cette reprise signée Sangante qui va marquer. Reprise de demi-volée là, c'est qui laisse alors qu'au départ on pensait que c'était une tête de Yann Kitala qui était juste devant, mais voilà cette reprise avec cette course dans le dos de la défense stéphanoise. Et ce qui devait arriver arrive à 51e minute. Le Havre qui ouvre le score. On rappelle que les Havrais sont depuis la 36e minute à 9 contre 11. Et enfin, ils font parler donc leur supériorité numérique. 1-0 donc, nous en sommes à la 51e.
Ça promet la journée galère pour les Stéphanois qui, on le rappelle, n'ont toujours pas gagné en Ligue 2. Cette saison, on reviendra tout à l'heure à Geoffroy Guichard pour cette journée cauchemardesque. Mais d'abord, on va faire un petit détour aux Pays-Bas. Et pourtant, c'est pour la Vuelta. Johan Bredov, dis-nous tout. On est dans la deuxième étape. Journée plutôt tranquille, de plaine, a priori. Ouais.
Salut Flora, salut à tous. Oui, très tranquille, c'est tout plat, évidemment. On est aux Pays-Bas, tu le disais. Il y a eu un contre-la-montre individuel hier remporté par la Jumbo-Visma, l'équipe de Primoz Roglic. C'est Robert Gesink, d'ailleurs, qui est maillot rouge leader, beau cadeau fait par son équipe au Néerlandais qui est là depuis le début, hein, depuis la Rabobank, donc ça remonte à une dizaine d'années, voire 15 ans. Voilà, il reste 58 km et il y a 5 hommes en tête. Vandenberg, d'ailleurs, qui va prendre le maillot blanc à poids bleu du meilleur grimpeur, il a pris le seul point attribué aujourd'hui. Yetsebol, un autre Néerlandais, deux Espagnols, Pau Miquel et Asparen, et un Français, Thibaut Guernalec, mais plus que quelques secondes d'avance sur le peloton emmené par les Alpecines de Tim Merlier, qui est le grandissime favori pour ces étapes de plaine, le sprinter belge de cette équipe, donc Alpecin, le champion de Belgique d'ailleurs. Il reste 57 km et on se dirige tout droit, sans surprise, vers un sprint massif aux alentours de 17h30.
Et rapidement, est-ce qu'il y a une chance française aujourd'hui?
Bien sûr, la plus grande chance française, c'est Brian Coquart, frustré après avoir loupé le Tour de France. Il y a 6 étapes qui pourraient lui convenir, dont ces deux là aux Pays-Bas. Il a levé les bras 2 fois cette saison. Je le disais, frustré, il a contracté le Covid juste avant la grande boucle, il avait de grandes ambitions, voilà, il est aligné sur la Volta, il va essayer d'aller chercher une première victoire sur un grand tour, ça va être compliqué, hein. Il y a beaucoup de monde, Tim Merlier, j'en parlais, Mats Pedersen ou encore Sam Bennett pour ne citer qu'eux. Mais pourquoi pas, on peut y croire pour Brian Coquart, qui est donc la plus grande chance française pour ces étapes de sprint.
Allez, on croise les doigts pour Brian Coquart. On viendra évidemment sur cette étape de la Vuelta tout au long de l'intégral sport. Il est à 16h12 sur RMC dans moins d'une heure. Coup d'envoi donc de Monaco au Lens, évidemment sur RMC, la troisième journée de Ligue 1. Après la victoire de Lyon hier, et bien pression aujourd'hui sur les deux équipes. On va retrouver Timothée Mémon et Maxime Tilliette à Louis II. Salut messieurs, dites-nous tout déjà sur les compositions des deux équipes aujourd'hui.
Bonjour Flora.
Salut Flora, bonjour à tous.
Et on va commencer avec la composition monégasque.
Avec dans les buts Alexander Nübel, la défense de droite à gauche, Vanderson, Dizazi et Benoît Badiachil qui fait son retour, première titularisation pour l'international d'espoir. Dans le couloir gauche, Caio Henrique. Devant la défense, pas de Mohamed Camara arrivé cette semaine, ce sera donc Matadzo associé à Jean Lucas. Et puis devant, couloir droit, Crépin Diatta, couloir gauche, Takumi Minamino et la doublette axiale offensive, Brel Embolo, Wissam Ben.
Et la composition du Racing Club de Lens, c'est la troisième fois que Francaise aligne la même composition en 3 matchs depuis le début de la saison avec Brice. Samba dans la cage, une défense à 3 composée de Facundo Medina, Kevin Danso et Jonathan Grady. Sur le côté gauche, Machado, le Colombien. Sur le côté droit, le Polonais Frankowski. À la récupération, Seko Fofana associé à Abdoul Samed. En numéro 10, en soutien des attaquants, David Pereira d'Acosta. Les deux attaquants seront Florian Sotoka et le Belge Loïs Openda.
Merci beaucoup messieurs. Timothée, j'entends l'ambiance de dingue derrière toi là à Louis II. Franchement, il y a de l'ambiance, mais j'ai envie de dire qu'en fait Louis II, c'est plus le jardin de Lens finalement ces dernières saisons quand même.
Ne t'y trompe pas Flora, c'est le DJ qui met l'ambiance, hein. Pour le
et
reste
les pom-pom girls.
C'est encore assez largement clairsemé. C'est vrai qu'il y a également des pom-pom girls, c'est pas, voilà, là-bas ils font du bon travail. Effectivement, ils sont à domicile, ils seront à domicile d'abord toute la rencontre parce qu'il y a un millier voire un peu plus de supporters lensois ont fait le déplacement, un millier dans le parkage, mais on voit déjà pas mal de maillots lensois dans le reste des tribunes, des vacanciers, des nordistes venus en vacances sur la côte qui profitent de cette affiche placée comme ça au cœur du mois d'août pour venir se faire un petit match du Racing Club de Lens. Et puis c'est vrai que Lens réussit très très bien ici à Monaco. Les deux dernières venues lensoises se sont soldées par 2 victoires franches et nettes, une victoire 2-0, c'était le 21 août dernier, quasiment jour pour jour, et la fois précédente c'était le 16 décembre 2020, c'était une victoire 3-0 cette fois-là.
Ouais, Maxime, Lens en plus c'est un bien mauvais souvenir quand même pour les Monégasques. Il faut remonter à pas très très loin en fin de saison dernière.
Le deuxième but pour le Havre. Aliou qui vient récupérer un contre favorable après une première action où Yann Kitala avait fait l'essentiel du jeu. Finalement, on pensait que la défense stéphanoise remodelée avec désormais ses 9 joueurs contre 11 Havrais. Le contre était favorable à Aliou qui traînait dans le secteur et finalement il est allé tromper Étienne Green de près. près pour ce ballon qui a mal dégagé Anthony Briançon, et derrière il a mis en difficulté son gardien, et le numéro 10 du Havre est allé mettre ce deuxième but, et donc ça fait 2-0. La logique, on va dire numéraire comme vous voulez, en tout cas, parce que le Havre est à 11 contre 9 Stéphanois, avec une défense désormais à 5 totalement remodelée et pas forcément déjà à la base bien rodée par cette équipe de Saint-Etienne. Et bien ça fait 2-0 dans cette entame de deuxième période. On pensait que la deuxième mi-temps allait être difficile, mais là ça va tourner au cauchemar pour les hommes de Laurent Batles. 2-0 pour le Havre, 57 minutes de jeu.
Et il reste du temps en plus, effectivement, du côté de Geoffroy Guichard. On retournera à Monaco tout à l'heure retrouver Timothée Mémon et Maxime Tilliette pour le coup d'envoi, on vous le rappelle, de la troisième journée de Ligue 1 entre Monaco et Lens. Ce sera évidemment sur RMC. Il est 16h16, on va parler Première Ligue dans l'intégral sport tout de suite avec Salim Bongali, spécialiste de la Première Ligue sur RMC. Salut Salim, il y a le multiplex en cours, mais nous ce qui nous intéresse c'est plus Arsenal ce soir à 18h30 en déplacement à Bournemouth. Il y a un carton plein quand même pour les Gunners depuis le début de la saison, 2 matchs, 2 victoires. Finalement, il n'y a qu'eux qui arrivent à suivre le rythme de Manchester City.
Exactement, c'est vrai. Salut Flora, bonjour à toutes et à tous. Arsenal, nouveau gros, j'ai envie de dire, de la Première Ligue. Je dis nouveau gros parce que les saisons dernières nous ont davantage déçus concernant les Gunners. Mais c'est vrai qu'Arsenal suit bien le rythme de Manchester City avec 2 matchs et 2 victoires donc. Et puis surtout, au-delà des 2 victoires, la manière qui a été démontrée par cette équipe de Mikel Arteta, avec des buts, des actions, du jeu par séquence. Bah alors je titille un peu les nostalgiques, mais on a vu le grand Arsenal qui a rendu amoureux tant de Français. Cet Arsenal a une touche de balle qui allait très vite de l'avant et qui marquait beaucoup de buts. Quand on a vu les 2 buts face à Fulham, les 4 face à Leicester, oui, on a eu des sensations de voir un jeu clair, un jeu vraiment éclatant, éclaboussant même, et dominateur surtout, oui, le Arsenal de la grande époque.
Ouais, et surtout grâce en plus à la recrue de cet été, Gabriel Jesus, 2 buts, 2 passes décisif, quel recrue, j'ai envie de dire, quand même, fallait aller le chercher. Hein.
Oui, après Arsenal a mis des sous quand même, faut-il le rappeler, puisque je vais quand même rappeler une chose, il ne lui restait qu'une seule année de contrat, et cette seule année de contrat a été achetée 52 millions d'euros, c'est l'un des achats les plus chers pour une seule et unique année de contrat. À titre de comparaison, Sadio Mané, à qui il restait une année de contrat, ça a été 30 millions d'euros pour le Bayern, donc c'est pas le même tarif. Mais c'est vrai que Mikel Arteta déjà avait côtoyé le Brésilien à Stil lorsqu'il était l'adjoint de Pep Guardiola, mais surtout ce style-là, ben, il manquait à Arsenal. On le rappelle, l'année dernière, au final, en très peu de temps, Pierre-Emerick Aubameyang est parti d'Arsenal. Alexandre Lacazette, en fin de saison, libre de son contrat, est parti également. Donc il manquait clairement un neuf. Edin Nketiah ne pouvait pas pleinement, ou en tout cas prétendre à ce rôle-là de manière pérenne. Donc Jesus a été cherché par les Gunners, et au final, à bon escient pour l'instant. On le sait, il a un rôle de neuf très particulier parce qu'il sait marquer, mais il sait aussi faire marquer. Vous avez rappelé les 2 passes ici qu'il a pu réaliser face à Leicester. C'est aussi ça le jeu d'Arsenal, c'est marquer et savoir faire marquer les autres, et pour le coup il entre pleinement dans ce rôle-là.
On va rappeler un petit peu plus tôt la victoire de Tottenham en ouverture de cette journée face à Wolverhampton 1-0. Mais le gros match, c'est lundi soir à 21h, le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. United, lanterne rouge de Première Ligue quand même, on va le rappeler, avec 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Alors c'est loin d'être idéal aussi, hein, du côté de Liverpool avec 2 matchs nuls. Est-ce que finalement, Salim, un derby, c'est pas le match idéal, tiens, pour se relancer un petit peu, pour oui, se lancer en fait, tout simplement?
Après, je sais pas de quel côté on va se positionner.
C'est la question.
Je rappelle l'année dernière que on se disait un peu cela aussi. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez, on en parlait souvent, vous et moi ensemble, Flora. L'année dernière, je rappelle, pour Manchester United, ça peut être enfin le bon match pour enfin se lancer, ou enfin tourner un peu la mauvaise page ou la mauvaise période actuelle. Je rappelle que United en a pris 9 en 2 matchs face à Liverpool. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon moment? J'ai envie de dire, presque pour juste interrompre un peu l'hémorragie. Si United pouvait ne s'en sortir juste qu'avec un match nul, ce serait déjà pas mal, vu ce qui s'est passé lors des 2 premières rencontres. Après, en étant un peu plus sérieux, c'est vrai que les dynamiques sont tellement différentes des deux côtés, entre un United qui montre, soyons honnêtes, pas grand chose sur les 2 premiers matchs en tout cas, et un Liverpool qui est loin d'être étincelant, hein, vous l'avez rappelé, les 2 matchs nuls, surtout le premier face à Fulham qui avait été assez inquiétant, le deuxième face à Palace certes Liverpool avait été largement dominateur, mais en tout cas c'est sûr que c'est un moment clé pour gagner, et j'ai presque envie de dire pour au final mettre la tête dans l'eau un peu plus de l'adversaire qui serait perdant potentiellement. Après United, alors là pour le coup faut-il le rappeler, on ne pourra pas espérer Casemiro pour ce match-là, Casemiro qui vient tout juste d'arriver du Real, mais qui ne sera pas apte pour jouer cette rencontre, en tout cas il n'aura pas le droit encore de jouer ce match-là,
puisqu'en fait pour pouvoir jouer... J'allais t'en parler justement, Salim, parce que c'est l'énorme coup quand même réalisé par Manchester United, totalement improbable presque. Mais finalement, on se pose cette question, est-ce que Casemiro peut régler tous les problèmes de Manchester United ?
Voilà, alors tu l'as dit, pour le coup il y a beaucoup de choses évidemment avec le cas Casemiro. Déjà il faut rappeler que ça s'est fait très vite en fait, hein, parce que depuis deux mois ou trois mois on ne pensait qu'à un seul et même nom. Quand on pensait à Manchester United au milieu de terrain, on pensait à De Jong. Au final, ils ont compris que De Jong ça allait être compliqué, peut-être parce que le joueur voulait pas vraiment venir, ou parce que le Barça était vendeur sans lettre. Enfin c'était un salmigondi au terme de dossier. Au final Casemiro, ils s'y sont mis en une grosse semaine, pour pas dire à peine plus. Et au final Manchester United a réussi à faire en sorte que le Brésil arrive au Real. Donc ça c'est déjà un point. Je rappelle et je précise donc qu'il ne pourra pas jouer ce match-là face à Liverpool, parce que son dossier devait être totalement réglé, tout ce qui est permis de visa et tout ce qu'il faut, hier midi. C'était la date limite et l'horaire limite, ça n'a pas été le cas, donc il ne pourra pas jouer ce match face à Liverpool. Et après, pour répondre à ta question, est-ce que c'est lui qui va régler tous les problèmes ? C'est très clair, non. Ça sera une partie de la solution, c'est sûr. Quand vous avez Casemiro dans votre milieu de terrain, c'est toujours mieux que Fred et McTominay. Pardon pour les fans de United qui nous écoutent, mais c'est un fait. Après, c'est pas parce que vous avez Casemiro que tout d'un coup vous n'avez plus concédé les buts que De Gea essaie tant bien que mal d'arrêter. C'est pas parce que Casemiro est là que vous allez tout d'un coup vous mettre à marquer des buts. Bref, c'est une partie de la solution, mais je rappelle que pour que l'équation United qui gagne fonctionne, il faudrait que Rashford réussisse à mettre un pied devant l'autre, que Sancho réussisse à mettre un pied devant l'autre, que Cristiano Ronaldo reste pleinement, que Maguire arrête avec ses bourdes, que Lisandro Martinez se mette au niveau d'appel, que Shaw et Dalot réussissent à faire leur bon sens.
Ça fait beaucoup.
Voilà, on s'est compris, ça fait énormément de problèmes. Et j'ai peur, en regardant ça d'extérieur, et je pense que les fans de United qui nous écoutent penseront la même chose, j'ai peur que Casemiro ne soit qu'une partie infime de la solution.
On verra en tout cas, on le retrouvera sur les pelouses de Première Ligue dans les journées à suivre, 21h lundi soir pour ce Manchester United Liverpool. Merci beaucoup Salim Bongali d'avoir été avec nous pour parler Première Ligue.
On va et de trois. Et 2-3 pour Le Havre, avec l'écale qui vient marquer à bout portant aux 18 mètres, alors que les Stéphanois étaient en train de se replacer, parce que Laurent Batless vient de faire un nouveau changement avec l'entrée de Benjamin Bouchouari, et du coup il a fait repasser une défense à 4, alors que à la mi-temps il avait voulu essayer de bétonner. Il y avait toujours 0-0 et les Verts étaient déjà depuis la 36e à 9-11. Et bien le temps de se remettre en place, et bien l'écale a repris ce ballon et ça fait 3-0 donc pour l'instant. Sangant à la 51e, Alioui à la 56e, et donc à l'instant le capitaine Lécal, donc 3-0. Ça va tourner à la correction, 64e minute, et on rappelle que les Verts depuis la 36e minute sont en infériorité numérique, double infériorité numérique, 9-11 après deux expulsions.
Le cauchemar continue pour Saint-Etienne. 16h23 dans l'intégral sport sur RMC. On revient dans quelques instants avec l'affiche de la soirée en Ligue 1, l'OM face à Nantes.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi.
L'Intégral Sport continue jusqu'à 19h sur RMC, avant l'Intégral Foot autour de François Pinet pour le Multi-Ligue 2, la quatrième journée catastrophique pour Saint-Etienne. On va retrouver à Geoffroy Guichard tout de suite Edouard Jay, déjà réduit à 9. Edouard, ils sont maintenant réduits à 8 face au Havre.
Ouais, et ils sont menés 3-0 à la 69e minute. On va peut-être suivre une nouvelle action avec peut-être, non, finalement il va y avoir c'est un 6 mètres, un tic, François Le Texier. François Le Texier qui a donc dû sortir une nouvelle fois un avertissement rouge direct, la sortie mal maîtrisée en dehors de sa surface de réparation d'Etienne Green. Du coup Noah Ravert rentre, il a à peine 17 ans, il vient de les avoir au mois de juin dernier, il est né au Puy, donc pas très loin d'ici, fan des Verts. Il est rentré à la AS Saint-Etienne dès 8 ans, et il fait un sacré baptême du feu, le jeune gardien, avec son numéro 50. Et donc désormais les Stéphanois qui sont à 8 et qui ont procédé du coup un nouveau changement obligé. Laurent Batelès Atlas qui a remplacé donc Étienne Green d'une certaine manière par son gardien. Il a fallu qu'il sorte donc Victor Lobry et désormais eh bien tous les remplacements ont été opérés par Laurent Batless. Et donc à 20 minutes de la fin, les Stéphanois sont à 8 contre 11 et ils sont menés 3-0. Autant dire, Flora, que ce match ne ressemble plus à rien. Et remarquez, déjà, il ne ressemblait pas à grand chose. Désolé d'être aussi sévère, mais depuis la première période, ça ne rimait à rien. Il y avait déjà un jeu très très haché, la faute à des Stéphanois notamment très énervés qui n'arrivaient pas à garder leur calme, à l'image des deux fautes consécutives d'Anthony Briançon qui a débuté eh bien, un peu la valse des rouges. C'était à la 30e minute. Ensuite Cafaro, un geste vraiment imbécile, pardonnez-moi le terme, mais une gifle à un adversaire en pleine action. Il pensait être à l'abri du regard du staff arbitral. Et puis là, Étienne Green, c'est tout à fait logique, sorti mal maîtrisé. Une série de cartons jaunes dans un match donc qui ne rime plus forcément à grand chose, sauf qu'il va rapporter les trois points à cette équipe du Havre qui voulait justement, après ces deux nuls et la défaite sur les trois premières journées, eh bien enfin ouvrir le comptoir victoire, le compteur victoire. Eh bien, ça va être le cas. Reste à savoir désormais l'ampleur du score, qui est déjà très grande, hein. 3-0 et il reste 20 minutes. Elles vont être longues, ces 20 minutes, pour Laurent Batless qui est dans son banc sur son banc des remplaçants. Très, très perplexe sur la situation actuelle.
Ah, on imagine bien qu'à sa place, là, on ne doit pas être très, très bien. Effectivement, merci Edouard. On y reviendra évidemment tout à l'heure à Geoffroy Guichard. Ce soir, dans l'after, vous suivrez avec Thibaut Giangrand, Marseille-Nantes, troisième journée de Ligue 1, 21h pour le coup d'envoi. Jeannot Rességuier et Florent Germain tout à l'heure au commentaire au Vélodrome. On va retrouver déjà Jeannot qui est évidemment en place. Salut Jeannot.
Bonjour Flora, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Deuxième match de la saison déjà au Vélodrome, on imagine objectif, deuxième victoire tout simplement pour les Marseillais.
Oui, parce que ça avait plutôt bien débuté face à Reims avec une victoire 4-1 et derrière il y a eu ce match un petit peu plus compliqué à Brest, mais avec un match nul pour les joueurs de Tudor, cette équipe de Marseille qui est très attendue pour ce match face à Nantes, surtout dans l'interrogation de savoir si le coach va continuer avec la même composition d'équipe, parce que c'est vraiment la grosse interrogation à Marseille quand on discute avec les gens, quand on lit nos conférences de la Provence, tout tourne autour de la présence ou pas, ou plutôt de l'actuelle absence de poste de titulaire de Dimitri Payet. Quoi. C'est vraiment la question qui brûle les lèvres de tout le monde ici. Hein.
Bah oui, effectivement, parce qu'il était absent, en tout cas remplaçant à chaque fois. On va écouter tiens, justement Valentin Rongier sur son capitaine, capitaine a priori, mais qui évidemment, quand il rentre, a refusé le brassard l'autre fois à Valentin Rongier. Il nous rassure justement, Valentin Rongier, sur les intentions et la motivation de Dimitri Payet.
Non, je vous rassure, Dimitri est toujours aussi impliqué dans la vie du groupe. C'est le capitaine de notre équipe et voilà, il prend son rôle à cœur. Maintenant, je connais Dim, c'est un compétiteur. Je sais que ça lui plaît pas d'être sur le banc comme tout joueur de foot, donc il fait ce qu'il faut pour revenir. C'est certain qu'on aura besoin de lui et qu'il va nous aider encore cette saison comme il l'a fait l'année dernière.
Du coup, Jeannot, a priori, Dimitri Payet encore une fois remplaçant. Est-ce qu'on va se diriger encore une fois pour une troisième fois de suite sur la même compo pour Igor Tudor?
Ouais, presque la même compo, surtout quand on parle de Payet à Tudor. Lui, il répond tout simplement, c'est mon choix, pas plus. C'est un grand joueur, c'est un grand capitaine. Il sera important durant cette saison. Il travaille à l'entraînement, il a bien bossé cette semaine, mais apparemment sur la dernière mise en place, c'était sans Dimitri Payet. Donc, au niveau de la composition d'équipe, il y a quand même le retour de Paulo Lopez dans le groupe. Il s'était blessé, souvenez-vous, face au Betis le 27 juillet dernier, touché au psoas. Il est donc de retour et pourrait être titulaire. En tout cas, s'il est là, s'il est présent et qu'il est à 100%, il n'y a pas de raison que Blanco continue son intérim. On reste sur le 3-4-2-1 de Tudor avec une défense et avec des nouveaux, Mbemba, l'ex-joueur de Porto, Gigot, l'ex du Spartak, et peut-être le jeune, l'ex-Havré, Touré, plus que Balerdi. En tout cas, ça ressemblerait à ça au niveau du secteur offensif avec ces trois actions. Les Pistons, ce sont deux satisfactions depuis le début de la saison et même depuis la phase de préparation. Malgré ces cinq matchs avec trois défaites et un match nul contre le Betis, on a vu un très bon Klos sur le côté droit. On a vu un très bon Nuno Tavares sur le côté gauche, joueur prêté par Arsenal qui en plus a déjà claqué deux fois. Donc ça devrait pas bouger. Pour le reste, c'est avec ou sans Payet d'entrée. Alors si c'est avec Payet, c'est Guendouzi associé à Rongier. Si c'est sans Payet, c'est Rongier avec Veretout et Guendouzi qui glisserait à droite un tout petit peu plus offensif avec Gerson à gauche. Et le point d'interrogation, c'est sur l'attaquant axial. Milik, Suarez ou Sanchez, il y a ces trois possibilités. On sait que Milik, les dirigeants marseillais souhaiteraient le voir partir, ou tout du moins souhaiteraient le transférer. Under, je vous en ai même pas parlé puisque il est dans les négos avec Malinovski et l'Atalanta Bergame. Sanchez, c'est un véritable numéro 9. Tudor l'a plutôt utilisé depuis qu'il est arrivé sur un peu de temps de jeu dans un rôle de milieu de terrain, et Luis Suarez lui a déjà montré qu'il était le Colombien capable de marquer et notamment à deux reprises depuis le début de cette saison. Donc il y a des atouts offensifs au sein de cette formation Marseille, et ça c'est une évidence. Il y a un vrai souci, on va dire, d'équilibre avec tous les joueurs à disposition de Tudor qui aimeraient certainement en voir partir quelques-uns d'ici la fin du mois d'août ou tout du moins le 1er septembre.
Ouais, 16h34 dans l'Intégral Sport, on vous présente l'affiche du soir entre Marseille et Nantes dans une grosse demi-heure, un peu moins d'une demi-heure maintenant, c'est le coup d'envoi de Monaco Lens qu'on suivra évidemment sur RMC. Jeannot, un dernier mot tiens sur l'ambiance ce soir au Vélodrome. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à de l'animosité envers le coach Tudor, sifflé régulièrement?
Oui, d'ailleurs, il a eu cette phrase, hein, si on me siffle à chaque match, c'est pas grave, du moment que ça porte chance et qu'on gagne, avec le sourire. C'était après la victoire de la première journée au Vélodrome face au Stade de Reims. Chez moi, dans le sud-ouest, on dit que le vent d'OTAN, c'est le vent des fous. Là, il y a le Mistral, il est bien, bien costaud. On s'en est rendu compte en se posant tout à l'heure à Marseille-Provence. Est-ce que ça va un petit peu donner de la folie dans les tribunes du Stade Vélodrome? En tout cas, c'est la sixième fois consécutive qu'on va jouer à guichet fermé. On est à plus de 45 000 abonnés. Il y a quand même une véritable attente. L'attente, elle sera dans les prochains jours. Aussi, le 25 août, jeudi prochain, avec le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est une possibilité. On va voir comment réagit le public. Certains ont du mal à comprendre, en fait, les choix de Tudor. Il y a des chouchous à Marseille. Et Payet en fait partie. On peut parler aussi de Dieng, le petit jeune Sénégalais qui, lors du premier match de préparation, avait claqué un triplé, souvenez-vous, face à Marignane Gignac, qui a disparu depuis. On parle d'une possible vente. Donc il y a tous ces choix-là. Il y a aussi tout ce qui a été dit, raconté autour des relations difficiles, compliquées de Tudor avec son vestiaire. Et donc les supporters sont assez attentifs sur cette situation-là.
Ouais, effectivement, beaucoup d'enjeux autour de ce Marseille-Nantes. Merci beaucoup Jeannot. On te retrouve évidemment tout au long de la soirée sur RMC. On suivra ce match dans l'after avec Thibaut Giangrandre. 16h36 sur RMC, l'Intégral Sport continue jusqu'à 19h. On va parler dans quelques instants d'avant-match de Monaco-Lens. Mais d'abord, un petit mot de volley tout de suite, parce qu'il y a une grande réunion à Montpellier aujourd'hui avec l'équipe de France féminine et masculine qui vont jouer toutes les deux. On suivra les joueuses tricolores à 17h face à la Turquie avec Nicolas Bayou dans la Sud Arena. Salut Nico!
Salut Flora, salut à tous.
On a vécu, on se souvient, le parcours fantastique des hommes au dernier JO, champion olympique. Du coup, on a la sensation que la fédération a décidé de surfer un petit peu sur l'engouement autour des Bleus en rassemblant les deux équipes de France au même endroit.
Oui, c'est la première fois, c'est inédit, que les joueuses et les joueurs de l'équipe de France vont être sur le même lieu, la même salle pour jouer un match l'un après l'autre. Et ces joueurs et ces joueuses, ils se connaissent pas tellement que sur la saison. Pour les garçons, elle est très très longue, pour les filles également, entre l'équipe de France, les clubs. Et donc c'est une initiative inédite, et il faut la saluer de la part de la fédération pour mettre un petit peu à l'affiche les filles, surtout parce qu'elles sont en manque par rapport aux garçons, manque de médiatisation évidemment par rapport à nos Bleus qui sont champions olympiques et qui viennent de remporter la Ligue des Nations il y a quelques semaines.
Ouais, effectivement, on connaît bien les garçons qu'on a suivis, tu l'as dit, au dernier JO notamment, mais un petit peu moins les filles. Comment on peut les situer justement dans la hiérarchie européenne déjà, puisqu'on reste en Europe?
Eh bien, elles ont remporté la deuxième division européenne cet été. C'est le premier titre. Il faut le saluer aussi. C'est le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine cet été. Ce qui leur a permis de jouer les qualifications pour la première division mondiale. Elles sont quart de finaliste au dernier championnat d'Europe, ce qui était une belle performance. Elles sont loin des garçons. On peut pas vraiment faire.
Mauvaise liaison du côté de Montpellier. On retrouvera tout à l'heure Nicolas Bayou pour ce France-Turquie, coup d'envoi à 17h que vous verrez évidemment dans l'Intégral Sport sur RMC. On va faire un point du côté de Geoffroy Guichard avec Edouard G avec un nouveau but.
Tiens, un nouveau but, le quatrième but de signer Opéry, comme à l'entraînement, le ballon qui revient, deuxième ballon sur un corner, et il ajuste sa reprise demi-volée du gauche et qui va au ras du poteau du jeune Noah Raver qui a remplacé Etienne Green. On le rappelle, troisième exclu stéphanois dans cette partie. Donc le calvaire continue désormais. On en est à 4-0 pour le Havre à la 80e minute. Et on rappelle que les Verts, depuis la 36e, sont à 8 désormais contre 11. Mais déjà dès la 36e, ils étaient à 9. Bref, c'est un vrai cauchemar pour les hommes de Laurent Batless qui vont donc toujours rester avec leur solde négatif de points, mais surtout avec une énorme valise. 4-0 donc pour le Havre.
Ouais, je demande même s'il ne ferait pas mieux d'avoir encore quelques exclusions pour perdre sur tapis vert et perdre 3-0 tranquillement les Stéphanois. Merci Edouard, on va faire un point sur la deuxième étape de la Vuelta. Ça se passe aux Pays-Bas et oui, pour ce Tour d'Espagne, Johan Bredov. Dis-nous tout, où est-ce qu'on en est à quoi, une trentaine de kilomètres de l'arrivée?
Ouais, 36,9 kilomètres de l'arrivée. Théâtre, c'est Utrecht, la ville d'arrivée. Donc pour cette deuxième étape de la Vuelta, un seul homme en tête, Luis André Maté, l'Espagnol de Euskaltel Euskadi, mais on se dirige tout droit vers un sprint massif, les Alpecines qui roulent. 35 secondes de retard pour le peloton. Évidemment, on s'attend à un sprint massif, ça va arriver dans quoi? Un peu plus d'une demi-heure maintenant, dans les rues d'Utrecht.
Ah, c'est super dur à dire,
ouais, c'est dur, c'est très dur.
Tout va bien. On va, après les Pays-Bas, on va aller du côté de Munich. Tiens, retrouver Morgan Moury pour aller championnat d'Europe de gymnastique, l'épreuve par équipe masculine. Où en est notre équipe de France?
La médaille s'éloigne. Après la cinquième et avant-dernière rotation, les Français sont cinquième à 1,5 de l'Italie en troisième position provisoire. Les Français vont débuter sur le cheval d'argent avec Julien Saleur, Léo Saladino et Benjamin Osberger. Il faut faire les trois mouvements parfaits et que devant, ça rate chez les Italiens et les Suisses pour monter sur le podium.
Allez, on croise les doigts. Morgan, du côté de Munich, petite pause dans l'Intégral Sport, on en a tous besoin. J'ai l'impression, l'avant-match de Monaco-Lens, troisième journée de Ligue 1, c'est dans quelques instants avec Manu Amoros sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
16h44 sur RMC, l'Intégral Sport continue. Place à la Ligue 1 dans quelques instants. 17h pour le coup d'envoi de Monaco-Lens. J'accueille le membre de la Dream Team RMC Foot avec moi, Manu Amoros. Salut Manu.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
Avant, tiens, on va faire un petit mot du côté de Geoffroy Guichard parce que c'est le cauchemar qui continue pour Saint-Etienne. Edouard G, 5-0 désormais pour le Havre.
Ah oui, le doublé pour Christopher Opéry, presque dans les mêmes situations avec une reprise de demi de volée des 20 mètres. Ça fait donc 5-0 pour des Verts, réduits à 8 contre 11 à vrai et déjà à 9 à la mi-temps. Il y avait 0-0 et donc pour l'instant c'est du 5-0 pour le Havre et la correction, le cauchemar pour les Verts.
Manu, est-ce qu'on se dirige
pas 4 minutes.
Oui, 4 minutes en plus, c'est pas terminé. Manu, est-ce qu'on se dirige pas vers la saison totalement galère pour les Saint-Etienne?
Ah, c'est sûr que c'est pas évident. Déjà, ils ont eu des points de retard par rapport à la saison dernière où il y a eu un match de barrage contre Auxerre où il y a eu un envahissement de terrain, il y a eu pas mal de problèmes. Donc la Ligue avait décidé de repartir en Ligue 2 mais avec des points de retard donc et des huis clos, ça n'arrange pas non plus. Et c'est vrai que là ça commence à bien faire et ça risque d'avoir une saison catastrophique pour Saint-Etienne qui veulent monter dès cette année, mais là en partant comme ça c'est pas évident.
Ouais, ils avaient parlé en conférence de presse cette semaine de la reconstruction aussi du club, il y a eu beaucoup de recrues, il faut le temps aussi que tout ça se mette en place. Manu,
oui, mais malheureusement aujourd'hui dans le football on n'a pas le temps, il n'y en a pas de temps. Saint-Etienne fait partie des clubs historiques de notre championnat par le passé et aujourd'hui c'est vrai qu'ils doivent se reconstruire, mais il faut prendre, c'est vrai que tu as raison de dire qu'il faut prendre son temps, mais le problème c'est qu'on n'a pas de temps parce que les sponsors mettent la pression sur le club, les supporters veulent que le club remonte très rapidement, Mais voilà, je pense qu'il va falloir quand même attendre un peu avant de revoir Saint-Etienne en première division.
Ouais, effectivement, on verra ce que ça donne d'ici la fin du match. Il reste encore les 3 minutes dans le temps réglementaire. On va retrouver Timothée Mémon et Maxime Thillet du côté de Louis II. On est allé à un quart d'heure du coup d'envoi de ce Monaco-Lens. Messieurs, rapidement un rappel des compos des deux équipes s'il vous plaît.
Avec d'abord la compo de l'AS Monaco, Alexander Nübel dans les buts, la défense de droite à gauche, Vanderson, Dizazi et la première titularisation cette saison de Benoît Badiachil, Caillou Nainquet dans le couloir gauche. Elliot Matadzo et Jean-Lucas sont associés devant la défense. Youssouf Fofana est suspendu après son rouge reçu face à Rennes. Et puis Mohamed Camara est encore un peu juste pour démarrer, c'est la toute dernière recrue de l'ASM. Et devant, dans le couloir droit, Crépin Diata, dans le couloir gauche, Takumi Minamino. Une doublette offensive, Brel Embolo, Wissam Ben Yedder.
Et du côté de la composition lensoise, c'est Brice Samba dans la cage avec une défense à 3, Medina, Danso, Grady sur le côté droit, Frankowski sur le côté gauche, Machado à la récupération, Fofana et Samet juste devant eux, Pereira, Costa et puis on va retrouver à la pointe de l'attaque Openda et Sotoka.
Ouais, Maxime, enfin cette doublette alignée en pointe du côté de Monaco, Ben Yedder, Embolo, seulement 15 minutes ensemble hein, jusque là, oui. On a envie d'en voir plus hein.
Mais oui, parce que bah, c'est prometteur. On connaît Wissam Ben Yedder, il est clinique, il est chirurgical dans la surface. 74.
Et de 6 Yann Kitala qui va marquer le 6e, donc à la 89e minute donc pour Le Havre, qui continue d'enfoncer les verts. Il reste une minute, 6-0.
Et on a la sensation que tout peut se passer même en une minute. Effectivement, Maxime, on le disait, on espère voir autant de buts du côté de l'attaque des Monégasques.
Hein. Bah on espère, surtout que oui, comme tu l'évoquais, ils n'ont joué seulement qu'un petit quart d'heure ensemble là, suite à cette expulsion de Fofana la semaine dernière. C'est Wissam Ben Yedder qui a été sorti parce que pour jouer comme ça, Brel Embolo a fait un gros travail tout seul sur le front de l'attaque pour garder les ballons en point d'appui. Il était très précieux. C'était un choix logique hein, et qui a porté ses fruits, choix de Philippe Clément. Et donc là, ils vont pouvoir essayer de montrer s'ils ont et pu travailler les automatismes. À noter que Monaco, pour la première fois de la saison, a pu bénéficier d'une semaine calme, pas de barrage, pas de tour préliminaire, rien de tout ça. On a pu préparer ce match face à Lens toute la semaine.
Ouais, effectivement, bonne préparation.
Ils auraient préféré le contraire, je crois, non?
Ah ouais.
Effectivement, Manu, Timothée, tiens un mot des Lensois, parce qu'il y a un bon début de saison aussi de leur côté, et il y a des ambitions surtout pour les hommes de Francaise.
Oui, absolument. Les Lensois qui ont fait un bon début de saison avec une victoire, un match nul. Ils se sont fait un peu peur lors de la première journée tout de même, mais c'est une équipe qui ne cache pas ses ambitions, à l'image de Franck Hez qui hier en conférence de presse expliquait eh ben justement avoir de l'ambition tout en ayant du respect.
Effectivement, Monaco Lens à 17h pour le coup d'envoi tout de suite. On parie sur la rencontre.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
On retrouve notre expert en paris sportif, Johan Guillet. Quels sont les cotes sur ce match, Johan? Salut.
Salut Flora, salut Manu, salut à tous. Salut. Les cotes sèches, c'est 1,78 pour l'AS Monaco, 4,50 la victoire du Racing Club de Lens. On est à 4 pour le match nul. Ce que je vous propose, c'est deux paris. D'abord, Monaco qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Ça vous permet de doubler la mise. Et enfin, Monaco qui gagne, là aussi, avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 3,15.
Manu, tu paries là sur quoi, toi?
Alors moi, oui, les deux équipes qui marquent, victoire de Monaco et Embolo buteur.
Alors, je te trouve ça tout de suite. Victoire de Monaco, les deux équipes qui marquent. Et tu m'as dit Embolo buteur, c'est
Embolo
ça
buteur, Manu? Oui, oui.
Embolo
oui.
Buteur, ça l'a fait monter, ah, c'est énorme, à 5,80.
Ah bah c'est pas mal.
On prend.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup, Johan. Monaco Lens dans quelques instants. On va retourner à Geoffroy Guichard parce que c'est terminé, Edouard, sur une vraie soirée cauchemardesque, journée cauchemardesque. Enfin, la soirée va l'être aussi hein, pour les Stéphanois.
1, 2, 3 expulsions, 6 buts, 6-0 pour Le Havre. Les 3 expulsions, c'est pour Saint-Etienne. Toujours donc 0 victoire pour les Verts. La première pour les hommes de Mathieu Bodmer et pour les Verts. Toujours ce score négatif au classement, moins 1. Mais voilà, c'est 6 buts de Sangante à Lioui. L'écale, le doublé d'Opéry et le dernier par un joueur formé à l'OL, Yann Kitala, pour mettre une cerise bien indigeste sur le gâteau des Stéphanois ce soir. 6-0, eh bien ça va commencer à s'affoler peut-être du côté de Saint-Etienne. 0 victoire en 4 matchs et surtout une énorme défaite à domicile, 6-0.
Ça annonce une saison compliquée pour les Stéphanois. 16h51 sur RMC. L'Intégral Sport continue, coup d'envoi de Monaco Lens à 17h sur RMC. On file à Louis II dans quelques instants.